vous suit.
Voici les titres du journal.
La mise à l'enquête publique du projet immobilier Petit Suilly à la Tour de Paix est parvenue à son terme il y a 8 jours. 3 recours ont été adressés à la municipalité, laquelle va organiser une séance de conciliation avec les opposants. Les piscines d'Aigle et de Monté lancent leur saison ce week-end. Elles ouvrent pour la première fois sans mesures sanitaires depuis 2019. De la gratte aussi ce week-end du côté du casino barrière de Montreux. Ce dernier accueille en effet dès cet après-midi la première édition du Montreux International Guitar Show. On vous en parle tout à l'heure. Le Parlement fédéral, du moins une partie des élus, se penchera lundi sur les crises liées au climat et à la biodiversité. Une rencontre avec des scientifiques est en effet prévue au Palais fédéral. Une rencontre qui fait suite à la grève de la faim d'un papa fribourgeois fin 2021. On entendra ce dernier dans ce journal. Et puis du sport aussi dans cette édition. En ski alpinisme, 4e et dernier épisode de notre série sur la patrouille des glaciers avec le vainqueur de l'édition 2020, le Morginois Yannick Ecker. Et dans le Chablais valaisan, la 5e édition de la course des Deux Chapelles proposera dimanche un nouveau parcours. Voilà pour les titres de ce journal de la mi-journée.
Et pour la météo, le soleil domine et on en profite car le temps va tourner dès cet après-midi avec des précipitations annoncées en soirée. Et pour ce week-end, eh bien, le temps s'annonce plutôt mitigé. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Yves Terrani. Bonjour Yves.
Bonjour à tous. La mise à l'enquête de Petit Suilly est parvenue à son terme jeudi dernier. Ce projet immobilier avait été lancé à la Tour de Paix en 2019. Il comprenait 6 immeubles pour une 50aine d'appartements habitables, mais le plan n'avait pas reçu l'aval du conseil communal en 2020. En cause, l'envergure du projet et le nombre d'arbres qu'il aurait fallu couper. Le promoteur avait ainsi dû revoir ses plans et proposer un nouveau projet. Élise Kayser, municipale chargée de l'urbanisme et des travaux publics.
Ce projet a été adapté suite au refus du conseil communal. Il a fait l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire qui s'est terminée vendredi passé, sauf erreur. Et il a été adapté, donc il y a eu une diminution de la densité du projet au niveau du nombre d'habitations possibles. Il y a eu diminution du nombre d'arbres abattus. En fait, ils ont adapté le projet en ouvrage souterrain pour diminuer le nombre d'arbres qui seraient abattus. Et le règlement du plan d'affectation a été précisé selon les demandes de la commission ad hoc du conseil communal.
Des propos recueillis par Thierry Nicolet, le nouveau plan du Petit Suilly a reçu 3 oppositions lors de sa mise à l'enquête de la part de voisins et de l'association Pro Riviera. Une séance de conciliation sera prochainement organisée entre la municipalité et les plaignants. L'ouverture de la saison des piscines approche à Grand Crawl. Dans la région, ce sont Aigle et Monté qui inaugurent le millésime 2022 ce week-end. Pour la première fois depuis 3 ans, elles pourront accueillir les baigneurs sans restrictions sanitaires. La piscine de Monté a entrepris des modernisations à l'été 2020 qui devraient se terminer en cours de saison, les travaux qui se font ressentir sur le prix des entrées, celui des abonnements. Christian Saillin, secrétaire de l'association de la piscine de Monté, relativise cependant.
Pour une famille avec 2 adultes et 1 enfant, ça représente que 50 francs d'augmentation pour les 3 personnes pour l'abonnement de saison. Donc on pense être raisonnable. Par contre, pour les gens qui ne sont pas de la commune de Monté, là, l'augmentation, elle est de 150 francs. Ça explique aussi la participation de la ville au financement de la piscine.
Ces travaux ont coûté 15 millions de francs à l'association de la piscine de Monté. Ils ont permis de refaire à neuf l'intégralité des infrastructures, dont certaines datées de la construction en 1968. À Aigle, des rénovations sont également prévues. Marco Caravaglio, vice-président de la piscine d'Aigle.
Cette année, on a profité en fait, du changement de gérant du restaurant pour refaire intégralement la cuisine et puis faire une grande rampe d'accès pour les poussettes et les personnes à mobilité réduite. C'est l'accès, si on veut, à nos pelouses et aux restaurants.
C'était un sujet réalisé par Guillaume Abbé. Sensibiliser à la préservation de la nature, c'est l'objectif du Clean-up Day initié par l'Union cycliste Montézanne. Ce grand nettoyage qui aura lieu ce dimanche se déroulera sur les hauts de Monté, au chalet de Foges, les Montézans disent Fodz, et permettra aux participants d'entretenir les chemins forestiers. Grâce à cette action, les organisateurs veulent offrir aux cyclistes de la région, mais aussi aux marcheurs, des sentiers propres, sûrs et balisés, tout en préservant la biodiversité. Il y aura des guitares partout au casino barrière de Montreux ce week-end. La première édition du Montreux International Guitar Show démarre cet après-midi. Au programme, près de 80 exposants, des luthiers, différents artisans du monde de la gratte, ainsi que des concerts. Et les organisateurs de ce salon ne s'arrêtent pas là. Ils voient déjà plus loin, comme nous l'explique l'un des cofondateurs et directeurs de production, David Rosset.
On a de l'ambition, hein, on veut faire ça chaque année, donc c'est quelque chose qu'on veut faire grandir. Mais le but, c'est de présenter principalement des exposants, des luthiers, des artisans luthiers, des gens qui fabriquent des accessoires de guitare que des gens pourraient pas voir forcément en magasin de musique ou connaissent absolument pas. Donc c'est un petit peu ça, c'est de dire il y a d'autres choses qui se font dans le monde. Il y a des gens qui vont travailler différentes techniques, qui vont travailler en bois, il y a même des gens qui vont chercher du bois eux-mêmes pour réfléchir à quelle sonorité ils veulent. Et puis c'est un petit peu ça qu'on a envie de montrer, et surtout de créer des échanges entre ces exposants, ces artisans et le public.
David Rosset, interrogé par Léa Journaud, le Montreux International Guitar Show ouvre donc ses portes cet après-midi dès 15h pour le public et il durera jusqu'à dimanche au Casino Barrière de Montreux. La centrale renfort de la Croix-Rouge vaudoise a une nouvelle mission mise en place durant la pandémie. Ce service gère désormais les bénévoles qui s'investissent dans le cadre de la crise ukrainienne en sol vaudois. Le but est notamment d'orienter les personnes qui souhaitent s'engager vers des groupes et associations déjà existants et de mettre en lien les offres de bénévolat avec les besoins identifiés sur le terrain. Une plateforme est en ligne sur le site croixrougevaudoise.ch. Roberto Schmitt est le nouveau président du Conseil d'État valaisan, le chef du département des finances et de l'énergie succède à Frédéric Favre. Il occupera cette fonction pour un an dès le 1er mai. Christophe Darbelay le remplacera à la vice-présidence du collège gouvernemental. Le canton du Valais a créé son bureau spécialisé pour les droits des personnes en situation de handicap. Sa première responsable se nomme Caroline Lederman. Titulaire d'un brevet d'avocate, elle entrera en fonction le 1er mai. Ses tâches seront multiples. Faire le lien entre le canton et les communes en matière d'inclusion des personnes handicapées, accompagner ces dernières afin de faire valoir leurs droits et aussi soutenir les autorités dans l'adaptation de leurs lois. La création de ce bureau avait été approuvée l'an dernier par le Grand Conseil valaisan. Dans le canton, plus de 50 000 personnes sont en situation de handicap selon les chiffres de Forum Handicap Valais. Vous dire aussi que Xavier Allette dirigera la nouvelle section cybercriminalité de la police cantonale valaisanne. Actuellement responsable du groupe d'investigation numérique, Lagonois prendra ses fonctions le 1er septembre prochain. Enfin, sachez qu'Unia Valais s'engage pour la revalorisation des salaires des plâtriers peintres. Réunis ce matin à Martigny pour célébrer les 85 ans de l'association valaisanne des maîtres plâtriers et peintres, des représentants syndicaux ont distribué des tracts aux délégués patronaux présents. Avec le slogan « Fête pour les patrons, blocage salarial pour les ouvriers », l'objectif de l'action vise à rappeler aux employeurs l'esprit d'ouverture des fondateurs de l'association, lesquels avaient fait preuve d'un esprit pionnier en matière de partenariat social. La police turgovienne a arrêté un Suisse de 21 ans qui avait menacé sur les réseaux sociaux de commettre un massacre. Le ministère public a ouvert une enquête pénale contre lui. Domicilié en Turgovie, le jeune homme se trouve en détention, a indiqué aujourd'hui la police turgovienne. Il avait publié une vidéo lundi soir sur les réseaux sociaux dans laquelle il menaçait de commettre un assassinat de masse. Plusieurs grands projets ferroviaires accusent des retards de 3 à 5 ans. Suisse romande, l'aménagement du nœud de Genève ne sera ainsi pas mis en service avant 2035. Voilà ce qui ressort du rapport annuel sur l'état d'avancement des grands projets ferroviaires que l'OFT, l'Office fédéral des transports, a présenté et publié aujourd'hui. De nouveaux reports ne sont pas exclus. L'OFT avance comme cause des retards des restrictions à l'exploitation ferroviaire, des fenêtres temporelles serrées pour les travaux et des oppositions. Au niveau financier, le fonds d'infrastructure ferroviaire dispose de suffisamment de moyens pour les projets d'aménagement décidés. Le Parlement fédéral tient au début du mois de mai 2 sessions spéciales, l'une de 3 jours à partir du lundi 9 pour traiter des affaires courantes. Mais ce prochain lundi 2 mai, les 246 parlementaires sont invités par les présidents Irène Kéline et Thomas Efti à une séance d'information consacrée aux crises du climat et de la biodiversité. Seule une centaine d'élus est annoncée pour échanger avec le monde scientifique. Cette séance fait suite à la grève de la faim de 38 jours du père de famille fribourgeois Guillermo Fernandez sur la place fédérale en fin d'année dernière. Alors, s'il se dit satisfait de la tenue de la séance, ce dernier sait qu'une partie importante des parlementaires reste sourde à ses exigences d'action pour le climat et pour sauver la planète. Écoutez, Guillermo Fernandez, c'était à la veille de Noël lorsqu'il a mis fin à sa grève de la faim.
Les seuls parlementaires qui ont eu le courage de venir me parler, d'essayer de construire une solution, sont des femmes. Si vous voulez sauver ce pays et l'avenir, votez pour des femmes. parce que sincèrement, les hommes, ils n'ont pas de courage et pas la volonté de s'engager pour sauver le futur de nos enfants. On pourra identifier tous les parlementaires qui refusent obstinément de regarder la réalité en refusant d'aller à cet événement. Et personnellement, je considère que quelqu'un qui ne veut pas savoir quels sont les dangers qui menacent la survie de notre pays sont des traîtres. Et de la même manière, nous saurons quels sont les parlementaires qui auront assisté à la formation et seront donc au courant de la réalité des faits. Et qu'à partir de là, le peuple suisse pourra exiger d'eux qu'ils agissent pour sauver le futur du pays et de nos enfants sur ce qu'ils savent. Et s'ils ne le font pas, à nouveau, ils trahissent concrètement la lettre de la Constitution.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. La Russie, on est à l'étranger maintenant, la Russie a confirmé aujourd'hui avoir effectué hier une frappe avec des armes de haute précision contre Kiev, la capitale ukrainienne, en pleine visite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Une frappe au cours de laquelle Vira Gitich, une productrice ukrainienne de Radio Liberty, a été tuée alors que l'immeuble dans lequel elle résidait était atteint par un missile russe. Il s'agit du premier bombardement à Kiev depuis la mi-avril. Il est intervenu après un déplacement jeudi du patron de l'ONU à Boutcha et d'autres banlieues de Kiev, théâtre d'exactions présumées imputées par les Ukrainiens aux forces russes qui démentent de leur côté leur implication. Notons encore que l'armée russe a également détruit hier, toujours avec des missiles de haute précision, trois centrales électriques situées près de nœuds ferroviaires, notamment à Fastov, dans la région de Kiev. Enfin, une opération d'évacuation des civils terrés dans l'usine d'Azovstal, assiégée par les troupes russes à Mariupol, dans le sud-est de l'Ukraine, est envisagée pour aujourd'hui, a annoncé la présidence ukrainienne. Des heurts entre manifestants palestiniens et policiers israéliens ont fait 42 blessés ce matin sur l'esplanade des mosquées. Le lieu saint est considéré comme le foyer de tensions dans la vieille ville de Jérusalem. Un calme précaire est revenu sur place en matinée alors que des milliers de fidèles sont attendus plus tard dans la journée pour ce dernier vendredi du Ramadan. Depuis plus d'un mois, un regain de violence touche les territoires palestiniens et Israël avec plus de 250 blessés côté palestinien ces deux dernières semaines. Plus de 3000 migrants sont morts l'an dernier en mer alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe, soit le double du bilan enregistré en 2020, a indiqué l'ONU aujourd'hui. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, la pandémie de Covid-19 et les fermetures de frontières qui en ont découlé ont eu un impact sur les flux migratoires, de nombreux réfugiés et migrants se tournant vers des passeurs pour tenter de rejoindre malgré tout l'Europe. Et puis cette bonne nouvelle pour terminer, autant pour les indigènes bien sûr que pour ceux qui leur rendent visite, à savoir les touristes. Les Italiens n'auront plus besoin de passe sanitaire et vont tomber le masque dès dimanche dans les bars, les restaurants et au bureau. Ils devront le garder encore. En revanche, un petit peu dans les transports et au cinéma. Et on termine ce journal avec du sport, ski alpinisme. Après avoir déjà reporté de 24 heures les premiers départs de la patrouille des glaciers, ceux des catégories A2 et Z2 vont également être retardés d'un jour. Les conditions météorologiques actuelles ne permettent pas de garantir toute la sécurité nécessaire. Les annonces de précipitations et de nuages pour la journée de demain sont problématiques pour les organisateurs, notamment ce qui concerne les conditions de sauvetage par voie aérienne. L'ensemble des départs est donc décalé de 24 heures. Demain soir, dès 21h30, les patrouilles au départ de Zermatt devraient pouvoir s'élancer sur cette patrouille des glaciers. Quelques heures plus tard, dans la nuit de samedi à dimanche, celles d'Arola commenceront leur périple pour rejoindre Verbier. Et puis on reste sur la patrouille des glaciers avec la série que nous y consacrons et le Morginois Yannick Ecker qui vivra une patrouille des glaciers différente qu'à l'accoutumée. Le Morginois, ancien vainqueur de l'épreuve valaisanne en 2010, sera certes sur le parcours entre Zermatt et Verbier, si tout se passe bien, on l'a compris, mais pas en tant que participant. À 40 ans, l'ancien athlète professionnel continue d'apporter son expérience aux membres de l'équipe de Suisse. Cette année, sa mission consistera aussi à réaliser des images sur le tracé de 57 500 km. Un tracé qui a donné du fil à retordre à l'armée suisse pour cette édition 2022. Entre le manque de neige et la météo, les conditions n'ont pas forcément été optimales pour la préparation de la PDG. Les précisions de Yannick Ecker.
Cette année, ce qui sort vraiment de l'ordinaire qu'on n'a pas connu jusqu'à maintenant, c'est le peu de neige sur les glaciers. Parce qu'il y a eu des années où il n'y avait pas beaucoup de neige, où il fallait courir depuis les Runettes à Verbier, parce qu'il n'y avait pas les canons à neige comme il y a actuellement. Maintenant, ces dernières années, on est toujours arrivé en ski à Verbier. Et c'est peut-être un luxe et quelque chose qu'on a perdu l'habitude que la course pouvait aussi arriver en courant depuis les ruinettes. La grande difficulté pour l'armée, pour la préparation, pour la sécurité, c'est le manque de neige sur les glaciers, c'est les crevasses qu'il y a. Et je pense que l'armée doit aussi se réorganiser, réfléchir un peu différemment d'une année normale.
Je rebondis quand même, ça soulève une certaines questions écologiques. On peut l'imaginer que au fur et à mesure des années qui vont passer, ça va devenir de plus en plus compliqué. La neige va vraisemblablement s'éloigner des glaciers. Est-ce qu'on peut profiter du coup de la notoriété de cette course pour aussi peut-être mettre en avant certains soucis qu'elle rencontre?
Oui, je pense que oui. Je pense qu'au jour d'actuel, on sait tous qu'il y a des problèmes climatiques, on sait tous que les glaciers reculent. Mais là, une année un peu plus sèche, pas beaucoup de précipitations, on a quand même eu 6 semaines de grand beau. C'est vrai que les glaciers sont secs, il y a des passages qui sont dangereux, il y a des passages qui sont glacés. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est un peu difficile de parler d'écologie parce qu'ils mettent aussi des gros moyens, mais c'est aussi un exercice militaire. Et puis on sait que l'armée, c'est pas le côté le plus écologique peut-être de la planète, mais ils sont quand même là pour faire un entraînement. Et aussi, ça va montrer aux gens que il y a des années comme ça, et puis c'est pas toujours du pain béni qu'on peut arriver à Verbier les skis au pied.
Yannick Ecker au micro de Ludovic Turin. À plus basse altitude, la course des deux chapelles fera quant à elle sa mue dimanche entre Monté et les Cerniers. Pour sa 5e édition, l'épreuve organisée par le Panathlon Club Chablais proposera un nouveau parcours. Si le départ sera toujours donné depuis la chapelle du Pont à Monté, les participants ne s'arrêteront plus à la chapelle des Giettes. L'arrivée sera désormais jugée aux Cerniers après un effort de 9 km. Dans les tiroirs, depuis plusieurs années, cette modification du tracé n'a pas pu être mise en place. En 2020 et en 2021. La crise sanitaire avait eu raison de l'événement, mais cette année, tout rentre dans l'ordre. Sylvestre Marc, les responsables de la course des deux chapelles, revient sur les raisons qui ont poussé les organisateurs à adapter le parcours.
Il nous a été demandé un peu par les POD aussi, et puis on a vu qu'une seule année qu'on a eu beau pas la neige, on était vraiment trop serré vers le chalet Cazot. À 400 personnes, on ne savait plus où mettre les gens, on était un peu dépassés par les événements. Sur la place, c'est plus facile, on monte une cantine de 400 à 500 personnes.
Donc besoin de place, c'est aussi bon signe de se dire que maintenant on en est à 5 éditions, la course prend un petit peu d'ampleur, elle commence à avoir une certaine résonance.
J'espère, je crois, en tout cas on a une bonne publicité. Étant donné qu'on fait justement pour les enfants tout gratuit, on encourage, c'est le but du Panathlon, le fair play, d'aider les jeunes à faire du sport. Du sport pour le plaisir, pas seulement pour être champion du monde.
Sylvestre Marclay avec Julien Traxel pour cette 5e édition de la course des deux chapelles prévue dimanche. Les marraines de l'épreuve Maud Matisse et Laura Rebetsch ainsi que le parrain César Costa sont annoncés au départ.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.